Il y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 FM ou sur radiobartas.net. Nous sommes le lundi 10 octobre et il est 8h30 au programme de cette matinale. Nous sommes en direct avec Philibert. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous.
Philibert de Passe-Montagne, le foyer rural du Pont-Nonvert, et tu viens nous parler aujourd'hui d'une projection qui a lieu ce soir à l'Institut Agro-Chine, quand les montagnes étaient peintes. On en parle avec toi dans un instant, ça va être passionnant, t'es venu avec des gros bouquins. À mon avis, il y a 2-3 trucs à dire. C'est pour ça, je te le disais en antenne, c'est pour ça que je prends pas d'invité après toi. Voilà, on va vraiment prendre le temps de passer de choses absolument, de parler de choses absolument passionnantes. Et en deuxième partie d'émission, je vous propose de repartir dans les rues de Florac avec Michel Tuffry à la rencontre du passé et de ces commerces qui peuplaient la ville. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va pour l'édito très court aujourd'hui.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là.
Ce n'est que l'édito des Bartas. Parlons d'abord d'une jolie chose. Merci à la quinzaine d'associations qui sont venues samedi ici à Radio Bartas pour nous parler d'elles et de ce qu'elles font ici à Florac. C'était un bien joli moment. Sachez que l'intégralité des plateaux sera sur notre site tout à l'heure et que le premier plateau du matin sera rediffusé ce mercredi à partir de 19h et celui de l'après-midi jeudi soir. Merci encore à toi Véro qui est à l'initiative de ce projet et merci à Philippe qui a co-animé avec moi le matin. Sachez que toutes les assos qui souhaitent venir s'exprimer sur cette antenne et qui n'ont pas pu venir samedi, Bartas vous est ouvert. N'hésitez jamais à nous contacter, contact@radio.bartas.net. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Et du meilleur au pire, maintenant, ce monde est complètement fou. Après le Qatar qui accueillera la Coupe du Monde de football au mois de novembre, c'est l'Arabie Saoudite qui a droit à un événement de grande envergure. En l'occurrence, les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Je pense que je peux m'arrêter là, en fait ça sert pas grand chose d'aller plus loin, le Groenland accueillera sans doute les JO d'été 2032, voilà je pense qu'on peut pousser très loin le ridicule. Mais je me demande vraiment comment sont prises ce genre de décisions. Les gens qui les prennent sont-ils dans une salle à jouer à celui qui dit la plus grosse connerie ? Eh les gars, eh les gars, eh les gars, j'ai une idée. Si on faisait les JO d'hiver en plein désert, waouh ! S'exclame toute l'assemblée. C'est Roger qui a gagné cette fois. Allez, niquons la planète. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Écœurant, ah, tu m'étonnes.
De télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever. Un seul objectif en tête. Niquons la planète.
Faisons l'amour à la terre. Des tonnes de pétrole.
dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète,
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 fais le mur à terre,
niquons la planète.
HK et les saltimbanques, niquons la planète, pas besoin de se forcer hein, pour ça. De retour en plateau avec Philibert, merci d'être avec nous. Tu viens nous parler de la projection ce soir, lundi soir, à l'Institut Agro-Chine, quand les montagnes étaient peintes. C'est un film qui va être présenté et qui a d'ailleurs été réalisé aussi par Jean-Loïc Le Kelec, qui est mythologue et préhistorien. Et ça se passe dans le cadre de la fête de la science. On citera tous les partenaires de ce projet à la fin de cette interview. Bah, on va commencer simplement. Hein. Qui est Jean-Loïc Le Kelec ?
Alors, Jean-Loïc Le Kelec, déjà, je peux préciser le contexte, c'est qu'il était venu en résidence au Pont de Montvert l'année dernière avec sa compagne Bernadette Bidaud, qui est conteuse, créer un spectacle dans lequel ils interviennent tous les deux, lui en tant que préhistorien. Mmh. Et donc, on avait un peu bâclé, on va dire, un peu les à côté, etc. Et donc, ils ont gentiment accepté de revenir cet automne. Et donc, on l'a fait dans le cadre de la science, donc pour cette occasion, quoi.
Ouais.
Jean-Loïc Le Kelec, alors, il fait partie de cette génération des gens qui sont issus des sciences humaines, qui sont beaucoup plus autodidactes qu'on ne croit, beaucoup moins universitaires, voire pas du tout, des gens de terrain, en fait, avant tout, mais en même temps, des gros lecteurs et des gros cerveaux quand même. Hein, faut le dire. C'est des gens, ouais, on disait avant le mot des savants, hein, etc. Il y a ce côté savant dans le sens où il y a une connaissance extrêmement transversale, en fait. Hein, on a toujours tendance à ranger les gens dans des boîtes, hein, ouais. Dans des cases. Ben, Jean-Loïc, il a deux grandes spécialités. Il est historien, on va dire, de la période paléolithique, hein, voilà, puisque le mot préhistoire, il est quand même un peu périmé, on va dire, hein, puisque un peu péjoratif, en fait. Hein. Il s'agit de parler de gens qui sont des êtres humains comme vous et moi, qui s'habillent, qui se soignent, qui se logent, ils construisent des maisons. Hein. Ils se guérissent, ils cueillent, ils cueillent pas n'importe comment, hein, en jardinant leurs endroits de cueillette et les forêts et les autres endroits. Hein, mmh. C'est très organisé, un peu comme en Amazonie actuellement. Hein. Ils cuisent des graines, hein, des graines sauvages, mais ils cuisent des graines, en fait. Hein, ils s'habillent, comme on l'a dit. Ils chassent un petit peu, contrairement à ce qu'on croit. Les femmes chassent le petit gibier, en fait, hein, le tout petit gibier avec des bâtons. Hein. Mmh. Elles tuent pas par le sang, contrairement aux hommes qui, eux, on le sait, ça, parce que c'est effectivement le cas sur la planète actuellement. Donc, il y a des choses qui sont universelles, ça fait partie des choses universelles. Les hommes, eux, tuent à la chasse avec du sang, sur des chasses qui sont, on va dire, plus occasionnelles, moins à but de se nourrir que dans un but un peu initiatique, hein, de tuer une bête pour dire « je suis un homme ». Voilà. Donc, et ça, on le sait parce que effectivement quand on étudie les mœurs sur la planète encore maintenant, c'est universel, cette chose-là. Quoi, voilà. Donc voilà, il est spécialiste de cette époque-là, de ces hommes-là, et notamment spécialisé sur ce qu'on appelle l'art pariétal, hein, c'est-à-dire l'art des parois, hein, que ce soit en extérieur ou dans les cavernes.
Et il a une deuxième casquette, il est aussi mythologue.
Ouais,
Alors, c'est quoi la mythologie ?
Ben, la mythologie, en fait, la mythologie, c'est des histoires. Hein, hein, c'est des histoires qui tentent d'expliquer, moi je dirais, peut-être que Jean-Luc me reprendra tout à l'heure, qui tentent d'expliquer des choses un peu inexplicables, en fait. Hein, hein, c'est des histoires. Et c'est des histoires qui finissent par imprégner une culture et on se les transmet par imprégnation. Pas vraiment ni par voie orale ou quoi, c'est simplement que ça fait partie de la culture. Quoi. Mmh. Donc c'est plus que des petites histoires, c'est un peu fondateur de la société dans laquelle on vit. Quoi, en fait, hein.
Passionnant, c'est sûr. Alors, tu es venu avec des gros bouquins. Hein. Alors, est-ce que donc, ça a été écrit par Jean-Loïc ? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, ces bouquins ?
Eh bien, si tu veux, là, je suis venu parce que c'est avec son dernier bouquin, en fait, qui s'appelle La Caverne Originelle, qui vient de sortir ce mois-ci, en fait. Hein, pour dire quelle chance on a d'avoir Jean-Luc avec nous, parce qu'il était encore sur France Q il n'y a pas très longtemps, sur Carbone 14. Là, l'émission vient de sortir, il vient de l'enregistrer avant de venir. Voilà, et il a écrit ce bouquin, j'en parlerai, qui est une somme, on va dire, un petit peu d'un travail d'une vie, quand même, hein, même s'il est toujours en activité. Hein. Puisqu'il part dans le Sahara la semaine prochaine, mais il y a une somme de il réunit des connaissances dans ce bouquin, j'en parlerai, c'est très intéressant. Ouais. C'est la rencontre donc entre la mythologie justement et puis l'art des cavernes en fait. Mmh.
Et voilà. Il fait vraiment un croisement entre les deux. Et alors, tu me disais aussi notamment que ça pouvait, dans certaines sphères scientifiques, porter certaines polémiques.
Ben, disons que, Jean-Loïc, j'ai un autre bouquin à côté de moi qui s'appelle L'homme du puits, l'énigme du puits, pardon, l'homme de Lascaux. En fait, l'homme du puits à Lascaux, c'est une image. Alors, évidemment, je suis en train de la montrer, mais on est à la radio, comme d'hab. Excusez-moi. Mais vous pouvez taper L'homme du puits sur Internet, vous verrez, c'est une image où il y a, un bonhomme qui semble un peu comme flotter dans l'espace avec des animaux en face, etc. Et il y a eu moult interprétations. Mmh. Et Jean-Louis, il a écrit un petit bouquin. Alors là, pour le coup, il est tout petit. Hein, ouais. Et où il démolit, en fait, toutes ces interprétations, les unes après les autres, en disant qu'elles sont fantaisistes, quoi, simplement. Hein, mmh. Lui, il a une grande rigueur scientifique, en fait. Hein. Et en fait, bah, tu peux effectivement... c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'imaginaire que ça peut nous susciter en nous, ouais, que de voir une œuvre artistique qui a jusqu'à 40 000 ans à Chauvet, par exemple, quand on voit les lions de Chauvet, et finalement, on voit la beauté, les yeux, c'est des œuvres qui sont magnifiques, puis qui ont 40 000 ans, donc ça nous donne le vertige, etc. Et puis, ça peut nous donner à rêver, quoi. On peut imaginer tout ce qu'on veut, en fait. Hein. L'art est fait pour ça, en fait, hein, pour exciter l'imagination du spectateur, mais en l'occurrence, de là à l'écrire et en faire une théorie, c'est ce que se sont permis beaucoup de gens, et lui, il a passé sa vie aussi à démolir ça, en même temps que lui, il découvrait des choses, il a un peu modéré ça. Et puis, voilà, il a écrit un bouquin avant qui s'appelle, juste avant, hein, qui m'avait offert cet été d'ailleurs, qui s'appelle « Avant nous le déluge », qui est un bouquin où il classifie un peu tous les mythes de la planète, en fait. Hein. On va prendre un exemple. Bon, par exemple, le mythe des origines de l'homme, le mythe des origines de la Terre, le déluge, par exemple, des choses comme ça. Ou d'ailleurs, au passage, il égratigne la religion en disant « la religion, en tant que telle, c'est un concept ». C'est pas une réalité, parce que la seule réalité qui compte, c'est les mythes. Hein, et la religion, bah, c'est des mythes. Et encore plus de parler de la religion, des peuples premiers ou des choses comme ça, c'est juste absurde, quoi. C'est des visions. Voilà, c'est des mythes, c'est fondateur, c'est présent. Hein. D'ailleurs, ça permet aussi de dire, bah, même si, par exemple, moi, je suis pas croyant, en fait, hein, mais je suis imprégné de la culture chrétienne, comme vous et moi, parce que on a grandi là-dedans et que c'est quelque chose qui nous imprègne, en fait. Hein. Ouais, c'est important de le réaliser aussi pour pas le nier. Ouais. Et voilà, donc il a fait la carte, il a abordé déjà la notion de planisphère. En fait, il a choisi un planisphère qui n'est pas centré sur le monde occidental. Hein. Mm-hmm. Donc déjà, c'est un détail vachement important pour lui. Hein. C'est quelqu'un, c'est des gens qui sont quand même des humanistes hein, et qui ont une vision large de du monde et pas de la culture occidentale. Ouais. Et donc, il a fait pour chaque type de mythe des cartes comme ça. Et ce qui permet de faire un lien très clair, en fait, avec l'émigration de l'Homo sapiens, tout simplement.
Ouais, c'est passionnant.
Ouais.
Et si on partait en Chine, là, puisque voilà, on va se retrouver, ce sera un super gros, sur bah, quelque chose d'assez incroyable, puisque les montagnes peintes sont les plus grandes... Comment on peut dire fresques
ouais, bah, les plus grandes, ouais, peintures rupestres en fait, hein, peintures de parois quoi, du monde, voilà. J'en sais pas beaucoup plus. Je vais vous dire, je vais être, franchement, j'ai pas vu le film hein. Parce que le film c'est toujours, c'est super et ça fait rêver et du coup ça ouvre après la conversation et c'est la causerie qui est le plus important en fait dans une soirée comme ça. Et moi je vais le découvrir avec vous. Je sais simplement que c'est un site exceptionnel, que c'est les plus grandes gravures, que ça fait plus de 20 mètres de haut, qu'on ne sait pas trop comment ils ont été peints, peindre ça, et qu'elles sont conservées, ce qui est quand même très exceptionnel déjà en extérieur en fait. Hein.
En tout cas, il est allé les voir, voilà, et donc il a fait ce film avec Paul Bann. Et la semaine dernière, pardon, et, ouais. Il est allé au collège et a projeté un autre film qu'il avait fait, c'est ça, 10 ans de plus.
Disons qu'en en fait, c'est toujours l'intelligence qui prévaut hein, chez Jean-Loïc. Donc, pour que ce soit efficace, il a invité les profs, en l'occurrence, c'était Michel Agulon, le prof d'histoire de 6e, donc qui traite de l'histoire d'avant. Et en fait, OK, c'est au programme. Et il a invité à projeter en amont un film qu'on avait projeté l'année dernière à Florac, hein, qui est autour des gravures de l'Utah, notamment une rencontre avec les Indiens Hopi. Et notamment, d'ailleurs, dans ces gravures, il y a un mythe, hein, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est le mythe de l'émergence. Et donc, ils ont visionné ce film, et après, ils ont dit... Bah, quels sont les élèves qui seraient intéressés pour participer à une rencontre et poser des questions à Jean-Loïc et à Bernadette, qui elle-même aussi travaillait avec la prof de français sur le compte, en fait. Voilà, donc ils sont arrivés, en fait... alors déjà, bon, ils sont arrivés au collège et puis ils ont commencé à dire bah, « Il fait beau, on ne ferait pas ça dans le théâtre de Verdure. » Donc tous les mômes, 40 mômes dans le théâtre de Verdure, des 6e, voilà, avec Bernadette. Hein, et puis aussi Marie Lyon, hein, qui fait partie de Passe-Montagne et qui est une des profs d'histoire géo du collège et qui a un petit peu piloté pour Passe-Montagne, on va dire, cette affaire coordonnée. Et qui s'occupe aussi à Passe-Montagne de tout ce qui est un peu jeunesse, etc. Et donc, voilà, ils ont posé des questions, etc. Un public complètement captif et vivant. Tout le monde était content. Moi, j'ai vu un des mômes, qui est un de mes petits voisins, le soir, enfin, le lendemain, il était... carrément, il a carrément été voir Jean-Loïc, il l'a remercié en fait. Hein. Voilà, c'est quand même pas ordinaire, etc. Les mômes, ils ont goûté ça à 200%. Ouais.
Quel bonheur. Ouais. Bah justement, tu as suscité ma curiosité. Qu'est-ce donc que le mythe de l'émergence ?
Ah ouais. Alors bon, il faut savoir qu'il y a un point commun en fait entre pas mal de disciplines, la préhistoire, la mythologie, enfin l'histoire d'avant, la mythologie, enfin l'histoire en général, on va dire plutôt la mythologie, voire même la génétique, par exemple, c'est que la linguistique, c'est des machines à remonter le temps en fait. Hein. Mm-hmm. C'est un point commun. Donc en fait, qui c'est ces gens-là, lui, c'est une catégorie de chercheurs, en fait, et de savants qui sont, en fait, des anthropologues, mais qui travaillent sur le passé de l'homme, hein, ce qui préfigure pas du tout de la spécialité, etc. Et donc, lui, il a développé l'étude de la mythologie, d'abord un peu au contact, il faut le dire, de Bernadette, hein, qui est quand même une conteuse, etc. Donc, ça, c'est très, très lié, le conte et la mythologie. Bien sûr. Et puis, c'est quelque chose qu'il a déjà passionné. Il avait travaillé... ils sont vendéens, tous les deux. Hein. C'est des gens qui sont issus du terroir, on va dire un peu... C'est pas des Parisiens, ça se sent dans qui ils sont et dans leur sens pratique. Et donc la mythologie, dans la mythologie, il y a différents mythes, notamment le mythe des origines de l'homme. On va, chez les chrétiens, par exemple, c'est l'histoire d'Adam et Ève, etc., hein, qu'on connaît. Dans ces mythes de l'origine de l'homme, il y en a un qui est extrêmement répandu dans le monde, qui s'appelle le mythe de l'émergence. En fait, ça correspond à l'homme et vit sous terre. Il est immortel, hein, c'est l'homme immortel, qui vit sous terre, et qui entrevoit le ciel, hein, en haut, et peut-être aussi le soleil, enfin les arbres, etc. Et évidemment, il y a une attraction qui se fait. Alors après, il y a différentes versions suivant les endroits de la planète, mais en montant sur le dos les uns des autres, enfin, etc., etc. Et il émerge de terre, et là, il devient mortel. C'est la naissance de l'humanité en tant que telle, en humanité mortelle, avec, voilà, avec tous les plaisirs qui vont avec, mais aussi la mort au bout du chemin. Voilà.
Le mythe de l'émergence. Ouais. Alors, pour revenir aux peintures rupestres, on dit peinture rupestre, hein, ça marche. Hein, je vais faire attention aux mots que j'emploie aussi.
Ouais.
C'est fascinant d'avoir comme ça des images, des témoignages concrets du passé.
Oui, bah c'est vertigineux. Quoi. Ouais. Ouais, c'est vertigineux. L'histoire qu'il a fait des mythes, par exemple, c'est pour simplifier, c'est quand même. Ça s'étale sur 40 000 ans à peu près, hein, l'Homo sapiens, le paléolithique, c'est cette période-là, hein, peut-être même un peu plus, mais bon, voilà. Et on va dire, c'est des mythes qui circulent sur tout le tour de la planète, c'est-à-dire 40 000 kilomètres, quoi. Et voilà. Et lui, il a démontré, par exemple, que le mythe de l'émergence, il n'y a pas. Ce qu'on appelle l'objet de ce bouquin, le dernier qu'il a fait, que je suis en train de lire, hein, mais bon, j'ai été un peu l'écouter sur France Culture, et puis on a beaucoup parlé aussi ces derniers jours. Il n'y a pas ce qu'on appelle convergence, c'est-à-dire que ce mythe, on le retrouve partout sur la planète, et c'est le mythe des origines de l'homme le plus répandu, le plus fréquent. Et c'est le plus répandu au niveau géographique. Il n'y a qu'un endroit dans le monde où il n'est pas, c'est en Australie. Pourquoi ? Parce qu'en Australie, les abos, ils ont connu qu'une seule migration. Une migration première, un peu comme ça, très ancienne. Et qu'ils ont pas, les autres vagues de migration n'ont pas atterri en Australie. Donc il est probable que... Donc lui, il démontre en fait que c'est une histoire unique qui part d'Afrique. Hein, hein, là où naît le berceau de l'humanité. Ouais. Qui part d'Afrique. Et qui se répand dans le monde au fur et à mesure des migrations de l'Homo sapiens. Et comme c'est limite, c'est une imprégnation, c'est-à-dire que c'est pas une petite histoire qu'on se raconte au bistrot et qu'on va déformer en la re-racontant aux copains ou aux copines, ça fait partie de soi, on grandit avec et on le transmet simplement en existant à ses enfants. C'est commun à tout un groupe social, en fait. Hein. Et ben ça se déforme pas. Ou très peu, voilà. Et donc, c'est une histoire qui a tenu le coup et qui existe encore, qui est encore c'est des mythes qui imprègnent des populations dans le monde encore aujourd'hui, maintenant, en fait, voilà.
C'est en ça que vous dites, donc, par rapport au film qui va être diffusé ce soir, que ça nous éclaire, en fait, tout ça sur la période actuelle, comme un effet de miroir.
Ben oui, parce que voilà, c'est vraiment tout ça, ça nous renvoie à maintenant. Puis, dans son dernier bouquin, quand il évoque la mythologie, il termine sur les mythes actuels. Hein, hein. De même que certains mythes comme celui-là sont toujours des mythes qui sont qui imprègnent des groupes sociaux actuellement dans le monde. De la même manière, ils s'inventent des mythes tous les jours. Le plus gros inventeur de mythes, c'est Trump. C'est Trump, tu vois, donc ça, il en parle aussi, hein, c'est politique de la mythologie, en fait.
C'est vrai. C'est rigolo que vous soyez à Florac, ça fait plaisir de voir le foyer rural du Pont Montvert de descendre comme ça, de descendre de votre montagne.
Bah, on était à la capitale. Non, mais c'est parce que c'est vrai que ça aurait été tentant de l'organiser au Pont de Montvert, hein, parce que bon, effectivement, voilà. Mais en même temps, on s'est dit que l'avenue de Bernadette et Jean-Loïc, c'était qu'il fallait en faire profiter le plus grand nombre, quoi. Et qu'en faisant un événement, en mettant la nouvelle dimension sur le coup, en faisant la Supagro, où il y a quand même des étudiants, on espère que vous allez venir. Bon, les petites fêtes, c'est pas ça qui manque, il y a d'autres jours pour la faire. C'est un peu pour vous qu'on l'a fait un lundi à 18h, parce qu'on sait très bien qu'un vendredi, vous êtes reparti dans les familles. Et voilà, on s'est dit, pour en faire profiter aussi, les Cévennes, tout autour, tout le monde, quoi, que ce soit pas trop loin pour tout le monde. Ouais.
Au cœur des montagnes majestueuses du Guangxi, non loin de la frontière vietnamienne, un site hors du commun attire plusieurs années les scientifiques les plus curieux. Il s'agit du plus grand site à peinture rupestre au monde. Pour y accéder, aucune route, aucune voie ferrée, c'est en bateau que l'on doit rejoindre le petit village de Wishan. But ultime du voyage de Paul Bann et de Jean-Louis Le Quellec. Ça donne envie.
Ouais.
Mais tu te dis comment est-ce qu'il t'a dit, Jean-Loïc, comment est née cette envie d'aller comme ça à la découverte de ces peintures rupestres?
Je sais que je parlais avec lui de ça hier en allant aux champignons et au brame du cerf. On essaye de lui faire découvrir un peu nos trucs à nous qu'on n'a pas vraiment trouvé d'ailleurs.
Ni le brame du cerf, ni les champignons.
Et, par exemple, il n'y a pas vraiment. C'est des histoires de passion, tout ça, en fait. Hein. Mmh. C'est juste la passion. En fait, il n'y a pas vraiment de filière pour devenir préhistorien, spécialiste des gravures rupestres. C'est simplement qu'on devient un amateur de ça, et puis qu'à un moment, c'est une telle passion qu'on finit par écrire des livres, par exemple, et puis qu'on finit par être reconnu par un milieu, et qu'il peut s'ouvrir des portes plus professionnelles. Mais la plupart de ces gens-là, ils bouffent d'autres choses, en fait. Hein.
Tu l'as dit, c'est une chance d'avoir Jean-Louis Le Quellec et Bernadette Bidoud ici chez nous. Chine, quand les montagnes étaient peintes, c'est lundi soir à partir de 18h à l'Institut Agro. Et je te vois regarder tes notes. Aurais-tu quelque chose encore à dire?
Je vais quand même revenir sur ce dernier bouquin parce que je vous ai parlé des mythes, je vous ai parlé des. Je vous ai pas bien parlé des cavernes encore, en fait, finalement, parce que. On s'est tous trimballé ce mythe de l'homme des cavernes quand on était môme, hein, l'homme des cavernes, etc. Machin, etc. En fait, on sait très bien, parce que ça c'est de l'archéologie, que l'homme n'a jamais vécu dans les cavernes. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme comme vous et moi. Mmh. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous on va aller vivre dans une caverne, en fait? Mmh. On pourrait y penser pour avoir moins froid, etc. Mais c'est absolument invivable, une caverne. Il fait noir. il y vivait pas dans les cavernes, ça on le sait en fait, parce qu'on n'a pas retrouvé les éléments du quotidien, quoi, dans les cavernes. On a retrouvé d'autres choses, mais pas les éléments du quotidien. On sait aussi qu'il y est rentré pour faire des peintures et des gravures, en fait. Et on a dit, pourquoi. Est-ce qu'un homme va rentrer, on s'est posé la question, pourquoi l'homme va rentrer dans le noir en s'éclairant avec une espèce de petite lampe, avec une mèche à huile ou à graisse d'animal plutôt, qui va l'éclairer sur un périmètre aussi large que la table où je me trouve, mm-hmm. pour aller bosser, parfois au plafond, et prendre dans des endroits parfois très reculés ou sans équipement pour progresser, etc. Parfois, qu'est-ce qui va foutre là? Qu'est-ce qui peut l'attirer là, en fait? Alors il y a des gens, ils ont dit, mais vous avez vu, c'est des animaux, c'est des rites pour la chasse, etc. Et Jean-Luc explique ça très bien. Il dit, il se trouve que à l'époque de la glaciation où on est, hein, l'époque de Lascaux, on est en pleine glaciation, en fait, ils bouffent du renne. Hein. Et il ne bouffe pas des mammouths, mais il le dessine, en fait, ou il dessine des ours, etc. Donc, c'est pas l'histoire de la chasse, en fait. Donc, il s'est toujours posé la question de pourquoi. Qu'est-ce qu'il a été foutre
dans les cavernes,
Sachant qu'il a peint beaucoup plus ailleurs que les cavernes. Hein. C'est simplement un type d'art qui s'est fait dans les cavernes, quoi. Les autres, elles ont un peu disparu parce que les cavernes, ça protège. Hein, voilà. Et il répond, après avoir réfuté énormément dans sa vie d'explications un peu, on va dire, romantiques des uns et des autres, et ben lui, il revient au mythe, hein, et au mythe de l'émergence, et il dit, je pense, j'affirme, qu'en fait, c'est pour le mythe de l'émergence qui attire les hommes pour peindre dans les cavernes, parce que la caverne, c'est en fait le point de communication entre la terre profonde, en fait, d'où on vient, et puis, quand on croit au mythe de l'émergence, hein, et c'est une porte de communication entre donc la terre profonde et puis l'homme, quoi. Voilà.
Passionnant. En tout cas, c'est à 18h à Supagro ce lundi. Jean-Louis Le Quellec sera là pour présenter son film et discuter avec vous, auditeurs, auditrices, Chine, quand les montagnes étaient peintes. C'est en partenariat avec la Fédération des foyers ruraux, le Collège de Florac. C'est dans le cadre de la Fête de la Science et c'est évidemment avec nos amis de la Nouvelle Dimension.
Exactement. Puis Supagro quand même qui accueille. Ouais.
Et alors l'institut agro, puisque
on dit plus Supagro.
Voilà, je me fais. Mais c'est quand on parle d'histoire commune, tu vois. Ouais, bah, voilà, ouais. On a tous dit toujours Supagro. Merci beaucoup, Philibert.
Bah, le plaisir était pour moi.
Un plaisir vraiment partagé. Et à très bientôt. Tu reviens quand tu veux, nous parler de ce que tu veux sur cette antenne avec grand plaisir.
Merci.
Dans un instant, on part en petite balade à Florac avec les commerces d'antan. On écoute The A-Max. Le morceau s'appelle Hit the Road, Jack. Tiens, tiens, ça vous rappelle quelque chose? Ben ouais.
Hit the road.
Hit the road.
Hit the road.
Hit the road.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Well, woman, oh woman, why you treat me so mean? She's the meanest darn woman that I ever seen. I guess if she said so, go around to pack my things and go. Yeah, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Say, baby, sweet baby, don't treat me this way. I'll be back in my feet someday. She said she don't care cause it's understood. You got no money, you ain't no good. If she says so, you laugh back and back and go.
Damn.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
She was much sweeter when I was in the dough.
Don't you come back no more.
That's when you find out who your friends really are.
Don't you come back no more. Don't you come back no more.
I told you, you know there's more fish in the sea, dog.
Don't you come back no more. Don't you come back no more.
You'll be sorry one day.
Un vendredi, 17h, avec Thomas Rivet, chargé des commerces à la communauté de communes Gorge Cosse-Cévennes, j'ai rendez-vous avec un sacré personnage au bord de l'esplanade. Devant l'enseigne Tuffery, pas celle avenue Jean Monestier, non, non, à l'esplanade. Une petite déventure qui paye pas de mine, mais qui doit receler de trésors tisserands et autres à l'intérieur. Michel Tuffery, un certain bel âge et est un homme bien pressé. Ça devrait faire sans doute 20 ans, au moins, qu'il devrait être à la retraite. Eh bien, il en a encore sous la pédale. Avec Thomas et lui, nous partons pour une petite visite de Florac, mais pas la visite guidée habituelle, non. On repart dans l'enfance et l'adolescence de Michel, à la découverte de ses petits commerces, qui ont maintenant disparu. Direction le 25 rue du Pêché, c'est là que commence la première partie de la visite, parce qu'il y en a des choses à dire.
On va commencer par un bout, finir par l'autre, parce que sinon...
on va pas s'en sortir,
ouais,
c'est
ouais, ça ne sortira pas.
Attendez, c'est vous dites qu'il y avait 135 commerces, c'est ça?
Ouais. Alors, ça, c'était la réunion des commerçants, là où je me suis un peu engueulé avec eux, fâché avec eux. Pourquoi? Vous voulez enregistrer? Parce que je considère que tous les commerçants de Florac doivent être très solidaires et se faire travailler les uns les autres. Moi, je fais travailler tous les commerces de Florac, mais il n'y a pas le retour, hein, je ne les vois pas, ils ne viennent pas à mon magasin. Bon. Alors, je me suis fâché parce que je leur ai dit qu'il fallait être solidaire. Ils ont dit que la mode de ça, c'était fini. Que la mode d'être solidaire, c'était fini. Alors, ils achètent sur Internet et tout. Ils ont raison parce que si tous leurs clients achetaient sur Internet, il n'y aurait plus de commerce en Florac. Donc, je me suis fâché, j'y suis plus. Et le jour où je me suis fâché, la nuit, j'ai calculé. Parce qu'ils m'ont dit, c'est pas vrai, tu racontes que des conneries. Et en me levant, j'ai écrit 135. J'en ai 135, j'en ai oublié. Parce que, alors, l'ancienne école était là. Voilà. L'école primaire de Florac des garçons jusqu'à 1955, jusqu'à ce que le CEG ouvre. Là, tous les garçons, cours préparatoire, cours élémentaire et cours moyen. Donc le cours préparatoire là-haut, le cours élémentaire là, cours élémentaire 1 et 2 là, et de l'autre côté, le cours moyen 1 et 2.
Pour les auditeurs, on est au 23-25 rue du Péché.
Voilà, c'était l'école de Florac. Ça s'appelait l'école publique, comme on dit, la petite école.
Communale, école primaire, école...
Oui, école primaire. Voilà, c'était l'école primaire, du CP au CM. Et après, en sixième... Alors, les filles, elles n'étaient pas là. Les filles, elles étaient là où il y a la bibliothèque. Puisque les garçons et les filles n'étaient pas mélangés. Bien que ce soit l'école publique. Par contre, moi, j'ai appris à écrire à l'école des sœurs, à la présentation. Mais à partir du CP, ils ne gardaient pas les garçons. Ils gardaient que les filles jusqu'au brevet. Donc là-haut, de l'âge de 2 ans à 5 ans et demi, 6 ans, j'étais à l'école maternelle et j'ai appris à les réécrire. Et après, je suis venu là à l'école communale. Bon, les filles, elles étaient là où il y a la bibliothèque, puisque les filles et les garçons n'étaient pas au même endroit. Et même après, quand on est parti au CEG, moi j'étais au CEG les 2 années du cours moyen, il n'y avait que des garçons, et de l'autre côté, il n'y avait que les filles. On n'était pas mélangés. Voilà. Alors là, il y avait une épicerie. Maintenant, si on attaque les vieux commerces...
Ouais.
Bon, plus loin, là-bas, là où il y a le fourgon, il y avait une quincaillerie. C'était Madame Roux-Méjean. Là où vient de passer le fourgon, une quincaillerie. Bon, M. Dubois, on ira une autre fois, là-bas, à la sortie de Florac.
Oui, mais là, le mieux, ce serait de parler des commerces qui existent encore. Vous nous puissiez nous dire ce qu'il y avait avant dedans.
Ah, mais ceux qui existent encore, il n'y en a plus. Alors, ça sera vite fait, il n'y en a plus. Là, toute cette rue, il n'y a plus de commerce. Il y en avait un à chaque porte.
Oui, mais ceux qui sont encore en activité aujourd'hui, il y avait
bien d'autres
activités avant.
La place de la mairie, tout ça, les boucheries, les épiceries.
Ah oui, mais la place de la mairie, ça revient. Mais on peut faire le tour de la place de la mairie. En fait, aller sur tous les endroits où il peut y avoir encore des commerces.
Bon, ça vous intéresse pas? C'était une épicerie. Il y avait une épicerie là. D'ailleurs, c'est marqué épicerie alimentation.
Et on fait même plus gaffe.
Alors, c'était là que les gamines de l'école y rentraient.
Pour la petite anecdote, il y avait une sommette. Ils ont frappé la sonnette, ça sonnait pas. Comme c'était de vieilles filles, le temps qu'elles descendent, ils avaient bouffé la moitié des bonbons. Hein, les bonbons de moquin.
Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais volé les bonbons. Parce que mes parents m'auraient tué, mais il y en a qui n'ont volé. Alors là, il y avait un sabotier. Bon, on va pas faire toute la rue. Là où les gens d'assis, le monsieur assis, il y avait un sabotier.
Mais alors, pourquoi ça a fermé, pourquoi? Parce que les gens sont partis et
mais
que...
Oui, c'est ça. Après, les gens, ils allaient vers des commerces plus importants, ou... je suppose. Hein. Là, il y avait une épicerie, Madame Nivoyès, qui est encore en vie, qui habite à la route.
On est au 20 rue du Péché.
Voilà, une épicerie. Donc, il y avait une porte, là, bon, comme dans tous les commerces, évidemment. Hein. Bon, ça vous concerne moins. Ça abritait des sœurs à cornettes, là, comme les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. C'était des sœurs qui faisaient des piqûres, qui soignaient les gens. Donc les sœurs, elles habitaient là. Et après, là cette maison, vous les jaunes, voilà, toute la maison. Quand les sœurs sont parties, il y a un curé qui habitait pendant longtemps, qui s'appelait l'archiprêtre Plagne, qui a fait la guerre de 14. Et après, donc, ça a été vendu par la paroisse pour devenir un gîte. Là, il y avait un marchand de chaussures. Il s'appelait Rouvière. Bon, le marchand de chaussures de la route d'en bas, la friperie, s'appelait Rouvière. Et là, c'était Rouvière aussi. Là, je suis venu acheter des chaussures, hein, plusieurs fois. Bon.
Ça vous fait quoi, à vous, de voir tous ces commerces qui ont fermé après?
Là, il y avait le mémé qui habitait. Moi, il y a eu un commerce, mais je ne l'ai pas connu, donc je n'en parle pas. Là, il y avait une boucherie. Là, c'était la boucherie Morin. Bon, une boucherie qui a été tenue jusqu'après plusieurs années. La boucherie Morin. Là, c'était fruits et légumes à Guyon, un grand magasin de fruits et légumes. Il faisait pas épicerie, il faisait que fruits et légumes.
Jusqu'à ce que ça devienne un restaurant.
Après, c'est devenu restaurant, mais avant qu'il y ait le restaurant, il y a eu le Camisard, qui était un copain qui... Le Camisard, il restaurait les meubles, il faisait un peu l'antiquaire et puis il faisait le restaurant. Ça a été lui le premier restaurant qui a ouvert le Camisard. Et ça, c'était en 68. Je sais que c'est 68 parce qu'il était avec moi au comité des fêtes. Si un jour vous voulez avoir des anecdotes sur le comité des fêtes, la charge des gendarmes dans Florac le 15 août 68, qui ont chargé les manifestants de 9h à minuit, avec le casque lourd et le fusil.
À Florac.
Ils ont chargé de l'hôtel du parc à la bibliothèque, donc ils ont chargé les mecs. Quand ils arrivaient au bout, tous les mecs ils s'étaient retournés. Les gendarmes ils se retournaient et rechargeaient dans tout ça. 15 août 68. Bon, ça, c'est parce que j'étais président du comité des fêtes 10 ans. Là, un bistrot, Huguet. C'était le bistrot Huguet, là. Alors, les bistrots de l'époque, ils faisaient un peu le casse-croûte le matin. Hein. Les œufs au plat, le jambon, etc. Voilà. Là, il y avait un rempailleur de chaises qui s'appelait Sibien. Là, quand on allait à l'école, il nous parlait tout le temps. Donc, lui, c'est pareil, il a duré assez longtemps. Hein. Sibien, il s'appelait. Donc là, il y avait la boucherie Pantel. Et après, il y a eu la boucherie Virebert, la boucherie Martin. Là, il y avait un marchand de graines, de semences, de pommes de terre, etc. Mais surtout, ce qui correspond un peu aujourd'hui à la coopérative agricole. Il vendait des choses pour les paysans, de l'engrais, etc. Et il vendait aussi du charbon. Donc il avait un dépôt ailleurs, il vendait le charbon. Et là, il vendait les produits alimentaires, les graines pour le jardin, etc. Costecalde, il s'appelait Édouard.
Et nous voilà, place de la mairie.
Bon, alors ici, maintenant, il y a une crêperie. Voilà. Maintenant, il y a une crêperie. Moi, j'y ai connu une épicerie. Bon, il y avait une grande épicerie qui, après cette grande épicerie, était partie s'installer là où il y a le cabinet comptable, où ils avaient ouvert un supermarché qui s'appelait U, ou je ne sais pas trop qui, enfin, avec une enseigne supermarché, mais c'était une épicerie. Là, donc, il y avait le boulanger, il n'y a pas longtemps, le boulanger POC, et puis là, toujours l'épicerie, et puis là, la librairie. Bon, là, il y avait un coiffeur. Le coiffeur Pradin, bon maintenant il y a un autre magasin à la place, le coiffeur Pradin, pendant longtemps il y a eu des coiffeurs là. Et là il y avait un bourrelier qui est mort sinistrement, il s'est pas nu le nid de Pâques. Hein. Je me rappelle, on était gamin, il s'est pas nu là-bas, on l'avait vu. Bon bref, le bourrelier. Alors lui il vendait tout ce qu'il y avait pour les chevaux, pour les moutons, pour les vaches, tout. Il avait un magasin extraordinaire, il fabriquait les capes de berger. Et puis il travaillait, il ne faisait pas que vendre, il préparait plein de trucs pour les gens. Hein. Les
ça, colliers. C'est vraiment pour... au coin de Pacioli, là. C'est
alors, Pacioli, hein. Le bourrelier, il n'était que là. Hein. Ah, pardon, le bourrelier était là. Chez Pacioli, il y avait un bistrot qui s'appelait Plantier. Et c'était un bistrot qui avait une petite licence. Donc il ne pouvait pas vendre du pastis, tout ça. Il vendait des canons de rouge, surtout. Et puis il faisait manger, pareil, il faisait manger les déjeuners ou les goûters. Hein. Ce n'était pas un restaurant. Hein. C'était les casse-croûtes des paysans les jours de foire. Bon, là, ça a toujours été un bar. Ça, c'était un autre Costecalde aussi. Je crois, alors, l'autre, il s'appelle, celui-là peut-être Édouard, et l'autre, il s'appelait Gaston. Il y en avait un Costecalde de Gaston là-bas, et là, Édouard. Donc là, il y avait un peintre qui s'appelait Bex. Bex. Là, il y avait teinturerie, pressing, bon, pressing, teinturerie, il faisait vraiment éteigner.
La Berlue était un pressing, alors.
Un pressing, là j'ai rien connu, bon, tout ça, si. Alors là pareil, là, je vous dirais, là il paraît qu'il y a eu un commerce dans le temps, sous le balcon, moi je ne l'ai pas connu, donc justement parce qu'il y faisait, bon, il y en a peut-être ça. Là il y avait le peintre et le mec du bistrot, là, il s'était engueulé, il s'était fâché, et souvent le jeudi il y avait séance au tribunal, parce qu'au tribunal c'était juge de paix, donc c'était pas les grandes affaires, c'était pas les crimes ni rien, c'était les conflits de voisinage. Et mon père, il nous avait dit, allez au tribunal, vous rigolerez. On était gamins, alors nous voilà tous partis au tribunal, parce que mon père devait le savoir, il y avait le jugement entre le mec du bistrot et le peintre. Alors il a dit, qu'est-ce que vous reprochez? Le juge, il a dit au mec du bistrot, qu'est-ce que vous reprochez à M. Bex? Il lui a dit, il m'a dit que ma rose était fanée. Et alors, oui, mais sa femme, elle s'appelait Rose. Alors, je crois qu'il s'était foutu sur la gueule. Alors le juge, je ne sais pas qu'il a dit, bon, alors nous, on était gamins, on était allés écouter ça. Bon, ça faisait... Mais pourquoi il vous a dit, eh bien, ma femme, elle s'appelle Rose? Oui, alors, il a dit que ma rose, elle était fanée. Voilà pour l'anecdote entre le peintre et le mec du bistrot. Il y avait peut-être autre chose qui couvait depuis plus longtemps.
Thank you.
place de la presse, il y a eu une épicerie qui s'appelait l'Étoile, qui tenait, si vous voulez, la partie gauche, et à côté, un mec qui vendait des postes de radio, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il vendait des postes de radio. Voilà. Donc il y avait deux magasins, l'Étoile du Midi, épicerie, et le magasin de postes de radio. Là, il y avait un bureau de tabac. C'était Madeleine Rouillère qui vendait les cigarettes, donc elle avait ce magasin et le magasin bleu, elle avait les deux. Et surtout bureau de tabac, puis après des cannes à pêche, des trucs, des machins.
Donc les auditeurs, là, on est vraiment en face de la salle du conseil communal.
Voilà.
Donc là,
bureau de tabac.
Immobilier, bureau de tabac, et juste à côté...
Bureau de tabac aussi, c'était l'annexe du bureau de tabac, c'était, ça appartenait au même commerçant. Bon, là, dans les temps très très anciens, sur les cartes postales, il y a eu une boulangerie qui après est partie là-bas.
La poissonnerie, c'était une boulangerie.
Oui, mais bien bien longtemps avant, et moi je ne l'ai pratiquement pas connue. La boulangerie qui était là, elle est partie là-bas, c'était la boulangerie POC. Et la poissonnerie, elle y est depuis 40 ans. Hein. Bon, maintenant elle a fermé, mais elle y a été longtemps.
Le restaurant là-bas, là, derrière la chute gauche,
là.
Le restaurant là, au bout, là, vous l'avez connu du coup?
Ah oui, c'était Pascal Paulet. Oui, je l'ai connu, mais manque de peau, maintenant il est malade. Et... Alors la mairie va restaurer le bâtiment puis le vernisser. Là. Enfin, moi je fais partie de l'association du patrimoine, donc nous on est là pour secouer. Hein. Donc on est en train de secouer pour que ce soit restauré, en tuile vernissée, parce qu'il était magnifique ce bâtiment. Mais là tout est en train de s'écrouler. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de peintures, de choses très très jolies. Pour un petit bâtiment comme ça, là il y avait une bonneterie, une dame qui vendait de la laine, ça s'appelait à la bonne laine. C'était Madame Lapierre.
Aujourd'hui, ça s'appelle la caserne des artistes. C'est quoi?
C'est vide. C'est une galerie. C'est une galerie où les artistes viennent exposer des tableaux, des créations. Enfin, ça a servi surtout à ça.
Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de locaux peuvent être réhabilités par les commerces?
Bah oui, c'est là-dessus que je travaille en partie du coup avec la mairie. Alors les réhabilités, là on a un local qui est propre, mais par contre il faut trouver des gens pour s'installer dedans, pour installer une activité dedans, et ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Quoi.
Alors là, des deux côtés de la rue, ça a souvent été une boucherie, et la même famille, c'était la boucherie Portaillée, donc tantôt ils ont été là. Puis après, ils sont partis là parce que c'était beaucoup plus grand, il y avait des grandes chambres froides et tout. Mais tantôt, dans la boucherie Portaillée, elle a été là, et puis à la fin, elle a été là.
Pour les auditeurs, on vient de rentrer dans la rue Armand-Juillet.
Voilà, c'est la rue Armand-Juillet. Donc là, il y a eu une épicerie. C'était le patron, il s'appelait François, les gens l'appelaient François les Bas-Bleus. Pourquoi les Bas-Bleus? Je ne sais rien. Donc, c'était François. Après, il y a eu un électricien, il y a eu une boutique de vêtements, une belle petite boutique. Hein. C'était bon, bien que je vende des vêtements, c'était très sympa, très bien. Et puis ça a foiré, bon, j'en sais rien. Alors ça, c'est une particularité, ce magasin. On peut rentrer par là et à côté du coiffeur, de l'autre côté. Hein. Et quand j'étais gamin, c'était une épicerie. Donc les gens pouvaient rentrer ou par là ou par là-bas. L'épicerie allait d'un bout à l'autre.
Il y avait un grand nombre d'épiceries dans le Thorac.
Oui, parce qu'il n'y avait pas de supermarché, les gens ils n'allaient pas faire leurs courses à Mende. Tout le monde achetait dans les épiceries sur place et puis au plus près. Ah oui, ça me fait des épiceries.
Alors, là, pour le coup, on vient de parler de chez Théo. Là,
épicerie. Bon, là, marchand de chaussures. Donc là, c'était ouvert jusqu'en bas, évidemment. Il y avait un grand magasin de chaussures qui s'appelait Salençon. Marguerite Salençon. Magasin de chaussures. Là, ça donnait sur la place. Alors là, il y a eu un peu de tout. Mais ça, c'est surtout, il faut en parler, quand on fait la place, il y a une boucherie chevaline, il y a eu un traiteur, il y a eu un magasin d'électroménager, il y a eu... Bon, on en parlera sur la place, ça. Là, il y a eu un magasin de sport. Alors à l'époque, on faisait beaucoup de ski, louait des skis, vendait des skis, des raquettes de tennis, bon, comme tous les magasins de sport. Ils ont été cambriolés plusieurs fois, ça s'appelait Fabre, parce que la maison est au Fabre. Ça les a désespérés, ils ont fermé le magasin de sport. Ils étaient cambriolés sans arrêt. Là, il y avait une modiste, Mademoiselle Ménadier.
Donc là, il y avait au coin, donc rue de l'église, rue André.
Voilà, cette première maison. On rentrait par là, on faisait le tour. Là, il y avait une grande devanture. Alors, modiste, ça veut dire qu'elle vendait beaucoup de chapeaux, d'accessoires de chapeaux, et qu'elle faisait la couture. Et après, donc, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'école, c'est celle-là. Là, hein,
ah oui, d'accord. Donc, on monte rue de l'église, en fait, et c'est rue de la...
C'est rue de l'église.
Donc là, rue de l'église, on monte un peu.
Voilà, et sur la gauche, il y a la maison de la présentation, mais tu la connais.
Ouais.
C'est la plus vieille maison de Florac. puisque à l'intérieur il y a des pierres gravées de 1500, mais on pense sur le fronton de l'église, il y a marqué sur le fronton de la porte, il y a marqué multa renicentur quoiam sesidere. Bon, je suis pas un grand latiniste, mais multa renacentur, mot à mot, beaucoup de choses renaissent quoiam sesidere, qui déjà était morte. Alors ça, ça peut vouloir dire que là-dessus on a reconstruit quelque chose, et que donc à 1500 et quelques on a reconstruit ça avec cette indication, mais qu'on a reconstruit sur quelque chose qui est existant. Et là il va y avoir une conférence, mais je pense que c'est le plus vieux bâtiment de Florac, de par son style, de par tout ce qu'il est. Alors donc après ça a abrité pendant longtemps une école, moi j'ai appris à écrire là. Voilà, c'était l'école de la présentation.
Et ça, avec l'association dont vous faites partie sur le patrimoine, vous,
Oui, moi je suis à l'association patrimoine, où on aiguillonne un peu pour qu'il y ait des choses qui se fassent, hein. Qu'on ne laisse pas tout écrouler, on est allé le visiter. Bon, il faut quand même un peu faire quelques petits travaux, enfin quelques travaux de sauvegarde, qu'au moins ils ne s'en prennent pas plus que ce que ça en a. Voilà. Mais c'est un peu compliqué parce que bon, il y a la partie très ancienne là, c'est de ça surtout qu'il faut s'occuper, et puis la partie plus moderne est en moins mauvais état, et dans la partie plus moderne il y a l'école privée actuellement, l'école Sainte-Lucie, donc il faudrait qu'on puisse, enfin que je ne sais pas qui puisse avoir un bail avec la partie ancienne pour s'en occuper, parce qu'on ne peut pas aller faire des travaux chez quelqu'un d'autre.
On continue dans la rue Arbanjuillet.
Donc voilà, nous en sommes. Alors là, il y avait un grand commerce de fruits et légumes qui était
là,
très connu.
Là, on parle de la nouvelle dimension actuelle.
Voilà. Voilà.
C'est fruits et légumes.
Au 12, c'était fruits et légumes, ça s'appelait chez Pissou. Alors Pissou, il s'appelait Jean Rousse. Il a été très célèbre parce qu'il avait un très très gros commerce de fruits et légumes avec des camions qui sillonnaient toute la France, bien qu'il soit de Florac. Très gros marchand de fruits et légumes. Il attrapait les légumes à Perpignan, il est monté à Paris, il avait des camions qui faisaient la navette tous les jours. Donc pour dire que c'était pas un bricoleur. Alors il y a marqué manger des fruits tous les matins, plus besoin de médecin, mais attention, pour économiser vos sous, achetez chez Pissou. C'était écrit sur tous les sacs. Et pour l'anecdote, il est 3 et 2, 6 francs 50. Et encore, il vous fait un prix. Alors, c'était un personnage. Alors, c'est lui qui a son nom sur la place. Là, on va y arriver. Donc là, le commerce de M. Rousse. Alors, M. Rousse, tout le monde l'appelait Pissou, tellement que tout le monde l'appelait Pissou. Il était adjoint au maire et tout, que le sous-préfet lui a envoyé des lettres pour l'inviter au 14 juillet, 11 novembre. M. Pissou, il le voyait dans les rues. Alors, M. Pissou, comment ça va? Alors, quelqu'un lui a dit, arrêtez, il ne s'appelle pas Pissou. Et tout le monde lui appelle Pissou. Ça, c'était le problème des villages où tous les gens avaient des surnoms. Alors, celui qui arrivait, il entendait dire Pissou, Pissou, il disait, bon, mais c'est son nom. Là, une épicerie, l'épicerie de Madame Menu. Donc, on est au...
Toute petite, alors. Et voilà. Ça s'ouvrait un peu...
Voilà. Alors, cette porte s'ouvrait, là, c'était la vitrine, et c'est une maison voûtée. Donc, c'était voûté, là, jusqu'au bout, et puis derrière, ils avaient leur habitation. L'épicerie Menu. Et là, une couturière, Mademoiselle Salençon. Mademoiselle Salençon. Moi, mon épouse a fait faire plein de vêtements, là, on les a encore très, très bien faits. Là, une boucherie, la boucherie Comte. Alors, vous savez que la caserne des pompiers s'appelle Paul Comte. Mm-hmm. Mais le boucher Paul Comte, il avait sa boucherie là, qui a été tuée au feu, là. Et la caserne des pompiers porte son nom. Voilà. Voilà. Alors ici, donc, on arrive à la place Pissou, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé, je crois. Il y avait une écrite, là, voilà. Là, c'est Jean-Roule dit Pissou. Voilà. Donc là, il avait des vieux bâtiments qui s'écroulaient. Et comme il était adjoint au maire ou plus ou moins à la mairie, il a dit, bon, plutôt que laisser écrouler, je vais les donner à la mairie ou les vendre. Ça a été démoli pour faire une place. Parce que là, c'était vraiment minable, le quartier. Donc voilà.
Et voilà. Nous sommes à peu près au niveau de la pizzeria rue Arbanjuillet. C'est là qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Petite pause. On reprendra le voyage très vite, car il y en a encore tellement des choses à dire. Merci à Michel Tufry pour ce moment d'histoire. Et si vous faites attention, vous allez maintenant voir ces devantures, celles témoins des commerces d'antan. Un crève-cœur pour Michel, et c'est marrant. Pour nous, jeune génération, on se prendrait à rêver que ça puisse revenir.
Thank you.
Et voilà pour la première partie de cette petite balade avec Michel Tufry. La deuxième partie, ce sera ce mercredi. C'est la fin de cette matinale. Juste pour vous rappeler que cette matinale est rediffusée le mardi soir. Donc, n'allez pas à Super Gros si nous sommes mardi. Mais par contre, allez-y si vous nous écoutez là maintenant à 18h ce lundi Chine, quand les montagnes étaient peintes, en présence de Jean-Louis Lequelec. C'est gratuit, c'est à Super Gros et l'Institut Agro, parce que je vais encore me faire disputer, voilà. C'est la fin de cette matinale, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se quitte avec Fredo des Ogres, la requête à nous et la fanfare agnolée qui interprète Gbaou Gbaou. Allez, portez-vous bien, à mercredi, ciao.
Odé pour le royaume de Dahomey. Ah ouais, tu pars de Sergi Pompon à Tongue. Ensemble à Toulouse, on embarque les frangins, on emmène les frangines. Réjouissez-vous, c'est Ayolé qui invite pour faire le tour du monde. Agégé, Ouida, Grand Popo, Porto Novo, quartier d'Owa, tu peux oublier l'Arscomoun. On part à la fête Vodoun.
Mikuto Bada, né à des bons.
Mikuto Bada, né à des bons.
Inoua noué. Bao bao,
Inuanue, bao bao,
Wanina, sou 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 sou.
On était ensemble et on se connaissait.
Wanina, sou 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 sou.
Mais jamais avant ça, on avait tant partagé.
Bao bao,
on était ensemble et on se connaissait.
Bao bao,
bao bao, bao bao.
C'est bien que ma patrie que ta roue c'est à tout pour son toi.
Le bras tendu pour trinquer vers l'inconnu, en laissant nos cœurs brailler ses envies de partage, rejoindre l'ami et le rivage, accueillis comme des fleurs on était.
Mikuto Bada,
et ça fait pousser les pensées.
Benaville,
c'est du Bénin, c'est du Bénin.
C'est bon pour la santé.
Ah ouais,
malade, c'est vrai, j'étais malade de l'arrivée, mais ça n'empêche pas de dire bonjour. Marabout ah ouais. Cotonou, à trois sur un scooter et deux sur le toit. Allez, direction la plage au feu de camp, des trompettes et des tambours. Le plantain, le poulet, le zinzin, les danses vaudou, leurs couleurs, les odeurs et la joie. Comme des ogres boulimiques de la vie quoi. Avant le retour à Paris,
les ardents dans le cœur, pétons-nous la porte. Et si jamais tu sentais un se construire en moi, fais-en une maison du bonheur, creuse-lui une porte. Écris-y, entrée libre, ici chez moi,
c'est chez toi.
Les ardons, le cœur, pétons-nous la porte. Et si jamais tu sentais un mur se construire en moi, fais-en une maison du bonheur, creuse-lui une porte. Les murs n'ont de sens que s'ils portent un toit.
Les invités, parayonnés.
On était invités, parayonnés.
Et les ogres de Barbac, yovo, yovo.
Les ogres de Barbac, yovo, yovo.
On a pris des zem-zem. Mais oui, mais oui.
On vous dit ça, on n'est pas tout à fait des chibanis. Dans c'est sûr, pour le genre mûr. On a escaladé des centaines
des
de murs. C'était la première fois qu'on allait au Bénin.
Ah,
bienvenue les amis, c'est nous les yo. On a déboulé des